Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Gwendoline Troyano, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Laurie Vachon.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après une semaine placée sous le signe du ralentissement de la croissance, nous vous proposons comme chaque vendredi un débat d'actualité économique. Deux mois après la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'il ne signerait pas en l'état le traité commercial avec l'Amérique du Sud. En cause, la déforestation industrielle de l'Amazonie, responsable des incendies qui ravagent la plus grande forêt de la planète. Le chef de l'État accuse son homologue brésilien de ne pas respecter l'accord de Paris sur le climat, remettant en question un partenariat commercial en négociation depuis 20 ans. Profite l'accord commercial avec le Mercosur. La France et ses partenaires européens peuvent-ils imposer des traités commerciaux plus verts? Enfin, à l'heure du retour des barrières douanières, un libre-échange écologique est-il possible? Voilà les questions qui nous occuperont dans l'heure qui vient. En fin d'émission, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Et pour décrypter les enjeux écologiques des traités commerciaux, trois invités autour de la table. Bonjour Sylvie Matelli.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. À vos côtés, Cécilia Bellora. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Et enfin, Mathilde Dupré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen, où vous vous occupez de la responsabilité des entreprises dans les accords commerciaux. Un grand merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Cet accord est en cours depuis deux décennies. Les négociations ont commencé il y a tout juste 20 ans, le 28 juin 1999 à Rio. Elles ont été longues et souvent difficiles, mais aujourd'hui, nous l'avons finalement fait.
L'accord conclu aujourd'hui créera une zone de libre-échange couvrant 760 millions de personnes, rapprochant deux continents dans un esprit d'ouverture et de coopération. Nous le faisons avec des amis et des alliés avec qui nous avons des liens historiques et avec lesquels nous travaillons très bien dans beaucoup d'autres domaines aussi.
C'est un moment historique pour les moments que nous vivons, où nous devons faire preuve d'engagement pour l'intégration, le multilatéralisme, l'ouverture des marchés.
On entendait dans l'ordre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, Cecilia Malmström, la commissaire européenne au commerce, et Jorge Faurier, le ministre argentin des Affaires étrangères. C'était à l'issue de la signature du protocole d'accord le 28 juin dernier à Bruxelles. Alors pour commencer, on peut dire qu'il s'agit de l'accord commercial le plus important qui n'a jamais été négocié par l'Union européenne, Cecilia Bellora.
Alors il s'agit sûrement d'un accord commercial important pour donner à peu près les ordres de grandeur, les échanges bilatéraux que l'Union européenne a avec le Mercosur. Donc, petit rappel, Mercosur, c'est Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Donc, les échanges que l'UE a avec ce bloc sont à peu près du même ordre de grandeur que les échanges que l'UE a avec le Canada. Donc, en bilatéral, il y a à peu près 80 milliards d'euros qui sont échangés. Donc, 40 et 45 dans un sens et un peu moins dans l'autre. Donc, oui, c'est un accord commercial important pour les volumes de commerce concernés et également par la taille du marché avec lequel on est en train de signer un accord, c'est-à-dire que le Mercosur, ce sont en PIB, c'est à peu près 4,6 milliards d'euros, enfin de dollars, donc c'est gros.
On entendait un accord historique, Sylvie Matelli, on peut dire que c'est un accord qui a abouti, en effet, après 20 ans de négociations. Pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps?
Alors, je crois que c'est intéressant peut-être de rappeler le contexte. 1999, l'OMC vient d'être créée, et en fait l'OMC, elle a été créée plutôt par défaut face à la difficulté que l'on avait à négocier d'amplifier la libéralisation des échanges. Et 1999, un petit peu après justement la signature de ce projet de négociation, c'est la conférence de l'OMC à Seattle avec les antimondialisations qui bloquent cette conférence. Donc on est dans un contexte à la fin des années 90 où la confiance dans le libre-échange de la part des dirigeants politiques est extrêmement forte, mais où il y a une prise de conscience aussi que ce libre-échange libre-échange, il profite essentiellement aux États-Unis et à l'Europe, et à leurs relations, transatlantiques, et qu'il tente à exclure ou à défavoriser un certain nombre de partenaires, qui d'ailleurs commencent à élever la voix et à contester ces négociations. Donc, si vous voulez, la négociation de ces accords de libre-échange vise au moins deux choses. Compenser la faiblesse de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et finalement construire des accords qui, progressivement, vont permettre d'élargir et de libéraliser l'échange de manière bilatérale ou multilatérale, mais de manière plus restreinte qu'au sein de l'OMC. Et puis le deuxième élément, c'est aussi de renforcer ce libre-échange dont on pense qu'il est une condition sine qua non de la croissance économique.
Cela a pris énormément de temps aussi, Mathilde Dupré, parce qu'il y avait énormément de points sur lesquels il fallait discuter et un certain nombre de concessions à faire de part et d'autre.
Alors c'est une négociation qui a pris du temps, qui a été gelée en fait à certaines périodes et qui a été ensuite réactivée plusieurs fois. L'Union européenne notamment considérait que les concessions qui étaient faites par les marchés du Mercosur étaient insuffisantes, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur des marchés publics aussi, qui était un des gros objectifs de l'Union européenne. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le mandat de négociation, du coup, date d'il y a 20 ans, donc il est moins large que ce qu'on a aujourd'hui dans les accords dits nouvelle génération, type CETA ou autre, par exemple. Il n'y a pas de volet protection des investissements dans l'accord avec Mercosur, ça fait quand même une différence assez importante. Et de fait, l'Union européenne va être la principale puissance commerciale à avoir un accord bilatéral avec le Mercosur en tant que bloc. Et ça, c'est un élément que l'Union européenne met beaucoup en avant dans sa communication.
C'est un aspect très important, en effet, le fait que notamment le Brésil et l'Argentine font partie des pays du G20 les plus fermés, Sylvie Matelli.
Oui, tout à fait. Et ils ont totalement intérêt à cet accord, puisque cet accord ouvrira le marché, un certain nombre de marchés, dont le marché agricole aux produits de ces pays-là. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que, en fait, toutes les négociations commerciales depuis la fin des années 80 se révèle extrêmement difficile et les difficultés ne cessent de s'amplifier d'année en année. Ça a été la création de l'OMC, comme je le disais tout à l'heure, qui a été finalement un moyen de sauver la face à la difficulté de conclure un accord ambitieux dans le cas du cycle de l'Uruguay. C'est le cycle de Doha. Ce sont tous les accords bilatéraux ou multilatéraux restreints ces dernières années.
Ça a pris 7 ans également pour le CETA.
Tout à fait, ça a pris 7 ans pour le CETA. Le TTIP, qui est aujourd'hui au point mort depuis l'élection du président Trump, est en négociation depuis très longtemps.
Le TTIP, il faut rappeler pour les auditeurs.
Le TTIP, c'est le traité le traité commercial entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on s'aperçoit que on est dans une situation extrêmement difficile avec des États qui sont coincés entre deux intérêts très différents. Et là, on en arrive au sujet aussi de l'émission, qui est la question environnementale. C'est d'une part les intérêts économiques des entreprises, du consommateur également. Je crois que c'est important de le rappeler, pour lesquels le libre-échange et l'amplification du libre-échange a des aspects positifs, puisqu'il facilite le business, il fait baisser les prix également. Et puis, de l'autre côté, des intérêts non économiques, intérêts sociaux, intérêts politiques, liés à la contestation aussi de la mondialisation et cette idée que le libre-échange a des effets pervers, dont le changement climatique et les questions environnementales.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que pour le moment, il s'agit d'un accord politique. On ignore encore quelle forme juridique prendra le traité. A priori, il faudra l'unanimité des États membres pour ratifier le traité, Cécilia Bellorin.
Oui, l'habitude, c'est en effet c'est d'abord un vote au Conseil, ça dépend exactement de la forme du traité, mais l'habitude est quand même de le garder à l'unanimité, même si des majorités sont autorisées, mais l'habitude des 28 était quand même d'obtenir l'unanimité, la raison pour laquelle aussi il y a eu des délais au moment de la signature du CETA pour attendre que la Belgique trouve un équilibre et trouver des points avec elle pour que le CETA puisse être ratifié. Donc, si je reviens, signe accord au niveau du Conseil. Ensuite, il faut que ça passe au Parlement européen. Et ensuite, en fonction de la nature de l'accord, ça peut nécessiter une ratification auprès de chacun des États membres. Mais ça dépend.
Mathilde Dupré, dans ce cas, la France pourrait bloquer l'accord.
A priori, ce qui avait été annoncé, c'est que c'était un accord d'association, donc qui nécessitait unanimité et vraisemblablement ratification dans les États membres. Après, on a vu que la Commission européenne, pour l'accord qui a été finalisé avec le Vietnam et pour l'accord avec Singapour, elle a redécoupé les accords de façon à ce qu'il y ait une partie uniquement commerciale qui puisse du coup être ratifiée seulement par le Conseil et par le Parlement européen, sans passer par les parlements nationaux, et un volet investissement qui, là, devrait suivre le chemin complet. Donc, normalement, pour l'instant, un veto d'un seul État pourrait bloquer la ratification de l'accord. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute façon, là, le processus de ratification n'a pas encore commencé. Le texte, en réalité, il y a encore des négociations techniques qui doivent avoir lieu pour finaliser le texte.
Et ça pourrait prendre plusieurs années.
Après, il y a une relecture juridique, il y a une traduction dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, c'est souvent très long. Et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, là, la France, contrairement à ce qui s'était passé pour l'examen du mandat de négociation avec réouverture de négociations avec les États-Unis, elle n'a pas été isolée. C'est-à-dire que derrière elle, le Luxembourg et l'Irlande ont dit avoir des réserves aussi. La ministre de l'Agriculture de l'Allemagne a également dit qu'il ne fallait pas avancer dans la ratification tant que le Brésil ne changeait pas de politique.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un texte qui rassemble contre lui les agriculteurs et les écologistes.
Alors c'est vrai qu'on observe une nouvelle alliance un peu sans précédent et en tout cas qui est très différente des alliances qu'on peut trouver dans la société civile sur de nombreux autres sujets et donc comme pour le CETA, le Mercosur fait l'unanimité contre lui en ce qui concerne les écologistes et
ce que dit Mathilde, ce qui est très intéressant dans tous ces nouveaux accords, c'est qu'au fond il n'est plus politiquement correct de négocier juste une levée des barrières commerciales. Et donc, vous incluez de nouveaux sujets dans le but de rassurer les opinions publiques, mais de fait, la compétence de l'accord ne relève plus uniquement de l'Union européenne, mais aussi des États membres, et ça complique énormément la tâche.
Et on a aussi des écologistes qui sont arrivés en force au Parlement européen, Cécilia Bellorin.
Alors, juste pour la précision, oui, il y a vraiment un côté opinion publique qui compte, mais il y a aussi des aspects simplement économiques qui poussent à l'élargissement du champ des accords. C'est que les barrières commerciales ont diminué au cours du temps, donc y compris depuis les années 2000, et que donc aujourd'hui, la barrière tarifaire en tant que telle, elle existe, mais elle n'est plus si importante que ça. Et on se rend compte que il faut aussi négocier sur des barrières non tarifaires qui sont aujourd'hui les plus gros obstacles.
Et normes sociales et environnementales, par exemple.
Et du coup, on rentre vraiment dans le dur de ces questions de normes sociales et environnementales, puisque à la fois, c'est quelque chose qui est nécessaire pour protéger l'intérêt des consommateurs, mais en même temps, c'est quelque chose où on peut avoir des accords et où on peut gagner en commerce. Donc, d'où la difficulté de négociation en plus.
On parlait tout à l'heure des concessions qui ont dû être faites de part et d'autre. Et l'une des grandes concessions de l'Union européenne, c'est ce quota de 99 000 tonnes de bœuf par an qui pourra être exporté vers l'Europe à un taux préférentiel et qui suscite l'inquiétude des éleveurs français.
Ce qu'on a à redouter, c'est déjà qu'il arrive énormément de viande à bas prix sur le marché. Déjà que les éleveurs sont en difficulté parce que les prix ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui pour la production limousine. Mais ce qu'on espère surtout, c'est que les exigences de production de ces animaux qui arriveront sur l'Union européenne soient les mêmes que pour les éleveurs de l'Union européenne et en particulier les éleveurs limousins. Nous, on a l'identification obligatoire. On a tout un tas de règles qui s'appliquent sur nos conditions de production, notamment des règles de surface disponible par animal lorsqu'ils sont à l'intérieur. On a des règles de mise au pâturage qui sont à respecter. On a des règles de chargement. Alors que sur ce que nous voyons régulièrement et sur ce que j'ai pu observer qu'il y a au Brésil, en Argentine, en Uruguay, dans tous ces pays d'Amérique latine, les animaux sont dans des feedlots, sont hormonés, ont une alimentation avec beaucoup d'OGM, alors que nous, on ne peut pas, dans nos cahiers des charges, notamment sur le label rouge Blason Prestige ou Qualité Limousine, nous avons des règles de production où on ne peut pas utiliser d'aliments contenant des OGM, où nous sommes obligés de produire 80% de l'alimentation des animaux sur l'exploitation et également pas d'utilisation d'antibiotiques pendant les derniers mois de finition, c'est-à-dire pendant les 4 mois qui précèdent l'abattage de l'animal.
Jean-Pierre Bonnet, éleveur bovin et président du groupement Limousin Bétail et Viande. Une réaction, Sylvie Matelli, à cette inquiétude des éleveurs français?
Elle est tout à fait fondée. Il est clair que c'est toujours ce qui cristallise les tensions autour de ces accords et de la négociation de ces accords. C'est que l'harmonisation des normes, ou en tout cas la négociation sur les normes, suppose de choisir un niveau de normes et qui est forcément intermédiaire et qui pénalise toujours les mieux-disants en la matière. Et ce sont généralement les Européens.
Ils ont raison de se sentir sacrifiés à l'industrie automobile, Mathilde Dupré?
Alors, il faut voir plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, l'agriculture n'a pas la même importance pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et donc, de fait, elle fait partie d'une négociation plus générale. Et donc, elle est mise en balance avec d'autres intérêts stratégiques de l'Union européenne. Donc, il y a certains choix qui ne plaisent pas à la France ou à l'Irlande, mais qui peuvent plaire davantage à d'autres pays membres. Donc, ça, c'est... une première décision à l'échelle de l'Union européenne avant même d'aller négocier en fait avec nos partenaires. Mais après là, ce que dit bien cet agriculteur, c'est toute la question et la difficulté aujourd'hui qu'on a à exiger un rehaussement progressif des normes à l'intérieur de l'Union européenne sans pouvoir assurer des mesures miroirs, c'est-à-dire que les produits qui sont importés sur le marché européen correspondent exactement aux mêmes exigences en matière sanitaire, environnementale, etc. Et là, on a eu l'exemple vraiment très précis, c'est-à-dire que dans les états généraux de l'alimentation, ça a été un sujet important. Dans la loi qui a suivi, il y a eu un article qui disait qu'il ne fallait plus qu'il y ait des produits importés qui ne respectent pas les standards européens et c'est quelque chose qui a été souvent répété par la Commission européenne, sauf qu'en réalité, on a des standards qui ne sont pas les mêmes et donc par exemple, il y a des produits qui sont interdits dans l'Union européenne en termes de pesticides, etc. et qui peuvent être utilisés pour les produits interdits, pour les produits importés à condition de respecter des limites maximales de résidus, mais donc ça crée bien des conditions de concurrence qui sont de fait assez différentes.
Et ça pose aussi la question des contrôles et de la possibilité de contrôler les produits qui sont importés en Europe, Cécilia Bellora.
Oui, absolument. Dès qu'on rentre dans ces questions de normes techniques, le sujet devient extrêmement compliqué, ce qui veut dire, en fait, il y a quelques pratiques qui sont vraiment interdites sur les produits importés, par exemple l'utilisation d'hormones dans la viande pour faire pousser les animaux abattus dans la viande qu'on importe. Et là, ça pose du coup la question d'avoir des contrôles à la frontière pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas d'hormones au-delà de la certification. Parce que normalement, ce qui se passe dans les traités de libre-échange, c'est qu'il y a un moment où on vérifie, les deux partenaires vérifient le système de certification de l'autre pays, de l'autre partenaire. Et ensuite, ils se mettent d'accord pour, éventuellement avec des requêtes de mise à niveau, etc., pour reconnaître la certification qui est faite dans l'autre pays. Ça veut dire que c'est un système où règne la confiance. Bon, on a confiance, on n'a pas confiance, voilà, c'est le premier point. Et puis, il y a effectivement d'autres sujets sur lesquels, effectivement, il y a ces traités plutôt par le biais de limites maximales des résidus, par exemple les antibiotiques. Oui, par exemple les antibiotiques, et donc ça, effectivement, ça nécessite des vérifications régulières des lots à l'entrée sur le marché.
Mathilde Dupré, sur cette question du contrôle, peut-être?
Mais je voulais revenir sur la question des hormones, parce que ça montre quand même qu'aujourd'hui, les règles sanitaires sont traitées dans les négociations commerciales comme des barrières au commerce, parce que leur respect a un coût pour les échanges de fait. Mais c'est extrêmement difficile, du coup, de les défendre. Et même là où l'Union européenne reconnaît qu'il y a des préférences collectives sur lesquelles elle ne veut pas transiger, par exemple le bœuf aux hormones, finalement, elle a quand même fait l'objet d'attaques à l'OMC. Elle a été condamnée parce qu'elle n'a pas réussi à faire valoir le principe de précaution à l'origine de cette mesure. Et donc, elle a été obligée d'ouvrir en compensation des contingents à droit nul sur de la viande qui n'est pas élevée aux hormones, mais quelque part de compenser, de dédommager ses partenaires commerciaux. Donc on voit que dans cette politique commerciale, dans ces négociations commerciales, tout ce qui relève des normes sanitaires, de consommation sociale et environnementale, c'est vraiment un point extrêmement difficile.
Cécilia Bellora.
Et c'est d'autant plus difficile qu'effectivement, ça relève, par exemple, la question des hormones, vraiment de perceptions différentes. C'est-à-dire que le consommateur européen ne veut pas de ça, alors que ça ne pose pas de questions dans d'autres pays, par exemple au Canada ou également ou aux États-Unis et même dans le Mercosur. Et du coup, ça revient vraiment à discuter de volonté, voilà, de préférence. Et du coup, c'est extrêmement difficile.
Et d'ailleurs, ces normes sociales, sanitaires, environnementales, elles inquiètent les producteurs brésiliens. Il y a notamment cette inquiétude liée au principe de précaution qui serait prévu par le traité. Et on sait qu'après la récession que le Brésil a connue entre 2015 et 2017, cet accord commercial est particulièrement déterminant pour son économie, Sylvie Matelli.
Bien, déterminant pour son économie ou plutôt pour son accès au marché européen, en fait. C'est là qu'est l'enjeu. Et le Brésil entrevoit d'énormes opportunités pour sur les produits agricoles en particulier. La question des normes, effectivement, relève complètement de deux cultures différentes. Et c'est vrai que la mise à niveau côté, on vient de discuter de la partie Union européenne et de la difficulté des agriculteurs européens de se retrouver face à des produits concurrents bien moins cher parce que moins normé. Côté Amérique du Sud, c'est la montée en gamme et l'augmentation des standards qui inquiète très logiquement parce que ça implique des investissements, ça implique un surcoût supplémentaire avant même d'avoir eu quelques débouchés que ce soit sur le marché européen.
Mathilde Dupré.
Mais dans le secteur, il y a quand même eu un scandale à l'échelle nationale sur la production de viande au Brésil, avec de la viande avariée et de la corruption d'un certain nombre de d'élites politiques et d'instances de contrôle, donc qui a inquiété un certain nombre de partenaires commerciaux du Brésil, qui ont d'ailleurs arrêté, stoppé leurs importations, je pense notamment aux États-Unis. La réponse de la Commission européenne a été beaucoup plus nuancée à cet égard. Elle a dépêché des inspections, etc. Elle a fait des recommandations, mais on n'a pas répondu avec la même force. Et il faut voir que dans ce qu'on a pu consulter jusqu'à présent de l'accord Mercosur, le principe de précaution, il n'est pas explicitement inscrit dans l'accord, c'est-à-dire qu'il est mentionné dans les chapitres développement durable, qui sont des chapitres moins contraignants que les autres. Et par ailleurs, le Mercosur l'accord fait référence au chapitre sur les normes sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, qui sont les règles sur les bases desquelles l'Union européenne a déjà été attaquée, et notamment sur les hormones.
Il y a l'inquiétude des producteurs agricoles, il y a aussi l'inquiétude des constructeurs automobiles brésiliens qui, eux également, sont peut-être en droit de redouter la concurrence européenne, Cécilia Bellora.
Oui, effectivement, autant les intérêts, j'allais dire, offensifs du Brésil, enfin du Brésil, pas que du Brésil, du Mercosur sont sur les secteurs agricoles, d'où les craintes de nos agriculteurs, et pas que, enfin de la partie agroalimentaire, autant nos intérêts européens offensifs sont plutôt sur la partie industrielle, puisque aujourd'hui ce qu'on exporte principalement, ce sont des biens manufacturés, et on les exporte malgré le fait qu'il reste des barrières commerciales assez élevées à l'entrée sur le marché du Mercosur. Donc effectivement, enlever ces barrières-là, ça va être des gains qui sont prévu comme étant plutôt important pour l'Union européenne, donc des gains possibles pour l'Union européenne et par contre du coup des pertes côté Mercosur. Ceci étant dit, en fait ce que les premières études d'impact, qui sont d'ailleurs un peu anciennes, montrent, c'est plutôt que les gains pour l'Union européenne sont de façon globale très faibles. Parce qu'en fait, on accède à un marché qui est plus petit que le nôtre, qui est lointain, etc. Avec quand même un déplacement de tout ce qui est valeur ajoutée depuis l'agriculture vers le manufacturier. Ça, c'est pour l'UE. Les gains sont plus importants côté Mercosur. Ça reste quand même des gains limités. On parle de quelque chose comme du 0,16%, si mes souvenirs sont bons, en termes de PIB. Donc, c'est quand même à long terme. Donc, ce qui est quand même faible. Et par contre, côté Mercosur, c'est effectivement plutôt des déplacements de valeur ajoutée depuis l'industrie vers l'agriculture.
Donc le gain serait peut-être moins économique que diplomatique pour l'Union européenne, Sylvie Matelli ?
Tout à fait. C'est ce qui interroge sur tous ces accords, parce que les études d'impact donnent à peu près les mêmes résultats, quels que soient les accords. C'est qu'au fond, soit on négocie avec des pays, comme ce fut le cas avec les États-Unis, où l'ouverture est déjà extrêmement forte et il y a peu à gagner, ou le Canada également, et il y a assez peu à gagner d'un point de vue économique, soit on négocie avec des pays où il y a moins d'ouverture, mais qui restent finalement des petits marchés pour l'Union européenne, et les conséquences et les enjeux économiques sont extrêmement faibles. Par contre, on est effectivement, et c'est ce que je rappelais au début de l'émission, dans une approche beaucoup plus géopolitique en fait qu'économique en tant que telle. L'idée étant de poursuivre les négociations dans un de libre-échange en fait, ou libre-échangiste, dans une optique de l'économie mondiale et de la mondialisation qui est plus à l'ouverture qu'au repli sur soi. Donc on est vraiment dans quelque chose de quasi dogmatique sur le sujet, et c'est peut-être ce qui rend la pédagogie sur ces accords et ensuite l'explication auprès des opinions publiques extrêmement difficile, parce que on négocie vraiment dans une approche dogmatique. Je pense qu'il y a un autre élément qui est important à souligner. Moi, il me semble que pour l'Union européenne, ces négociations ont une importance, sont aussi un moyen de progressivement diffuser les normes européennes, qu'elles soient environnementales ou sociales. Ça a été un échec, cette volonté qui était partagée par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne a été un échec au sein de l'OMC à la fin des années 90. Et on a l'impression qu'il y a une négociation pour les imposer par ces accords. Simplement, c'est une négociation. Et donc, forcément, vous imposez pas tout ce que vous voulez et vous devez négocier, vous devez accepter des concessions.
Effectivement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les accords commerciaux pourraient être le lieu pour l'Union européenne pour faire passer un certain nombre de normes sociales et environnementales ? On voit que c'est assez compliqué, Mathilde Dupré.
Mais surtout, la réponse est que idéalement, ça ne devrait pas être le lieu. Si on arrivait à avoir des négociations sur les sujets climatiques ou sur les sujets sociaux, dans lesquels on parviendrait à des textes ambitieux avec des mécanismes de contrôle et de sanctions, de la même façon que on y est parvenu dans une certaine mesure pour le commerce, on n'aurait pas besoin en fait de chercher à utiliser la politique commerciale pour ça. Le problème, c'est que on l'a vu avec les négociations climatiques, ça a été extrêmement difficile de construire un accord, et c'est un accord qui reste très imparfait, et on voit bien que il y a aucune sanction par exemple si on en sort, et il y a pas non plus de sanction si on ne respecte pas les engagements qui ont été pris. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le droit commercial apparaît comme une voie intéressante pour développer une diplomatie climatique et une diplomatie sur d'autres sujets liés aux standards internationaux, le respect des droits humains, etc. Et que effectivement, on commence à associer et à conditionner l'accès au marché européen au respect d'un certain nombre de standards. Et là, l'Union européenne, elle a effectivement un rôle important à jouer.
Cécilia Bellora, vous voulez réagir sur ce point ?
Clairement, en fait, c'est l'idée, et en deux mots, c'est d'utiliser le commerce comme un levier de négociation. Et l'Union européenne est dans la position idéale pour le faire, puisque c'est quand même le premier pôle au niveau mondial de commerce. Donc elle a effectivement cette position elle peut avoir une position de leader là-dessus. Alors avec ensuite toute la complication, parce que ça peut être cette volonté de soit d'imposer, mais même sans aller imposer les normes, ça peut être vu comme un problème d'ingérence, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les perceptions, y compris par les opinions publiques, ne sont pas les mêmes. On a vu, ça vaut ce que ça vaut, mais on a vu les premières réactions du président brésilien sur ces questions liées au feu en Amazonie. Et puis aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus on ajoute de sujets dans une négociation commerciale, moins on arrive à la faire avancer. Mais c'est vrai qu'en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, il y a une articulation entre politique commerciale et politique environnementale, c'est-à-dire que le commerce a un impact sur l'environnement, et également des politiques environnementales peuvent influencer les politiques commerciales, et donc c'est effectivement un point, une vraie raison pour articuler les deux.
Sylvie Matelli, c'est une véritable effectivement contradiction en fait de vouloir négocier par le commerce, mais d'un autre côté, et comme on le disait tout à fait au début de l'émission, il n'y a pas d'autre moyen de faire avancer les dossiers. Donc les États sont quelque peu bloqués face à ce type de contradiction.
Le chef de l'Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo de Manu Chao sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre débat sur les traités commerciaux européens face à la pression écologique. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Matelli, Cécilia Bellora et Mathilde Dupré. Un mot peut-être sur les attentes de l'Argentine en particulier vis-à-vis de cet accord. L'Argentine qui vit en ce moment dans la crainte d'un nouveau défaut de paiement et qui a demandé un rééchelonnement de sa dette au FMI. Elle compte sur cet accord commercial pour relancer peut-être la croissance.
C'est pas cet accord commercial qui sauvera l'économie argentine. L'économie argentine est une économie qui souffre depuis des années de politiques économiques relativement nationalistes et qui se met régulièrement ses partenaires à dos et qui se retrouve régulièrement, parce que ça a un coût aussi, une politique économique nationaliste, qui se retrouve régulièrement en menace de défaut de paiement ou en défaut de paiement. Donc, je pense que l'Argentine a probablement des choses à gagner dans un accord commercial et des débouchés à confirmer et à renforcer sur les marchés européens. Simplement, on est encore très très loin de la mise en œuvre des mesures prévues par cet accord commercial, et la crise en Argentine, elle est actuelle, elle est urgente en fait. Donc je pense pas qu'il y ait un lien très fort. Presque il peut y avoir un effet confiance si l'accord avance. Ça me semble compliqué vu les aléas que subissent aujourd'hui les accords commerciaux et les négociations commerciales.
Et cette crise économique argentine, est-ce qu'il faut la lier d'abord à l'incompétence de son président Mauricio Macri? C'est qu'on a pu entendre.
Auquel cas, il y a beaucoup de présidents argentins qui se sont révélés incompétents sur le plan économique. Très clairement, je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai pas regardé le bilan de ce président en particulier.
Du côté de l'Union européenne, entrons un peu dans le détail des attentes des différents pays vis-à-vis de cet accord. On le disait tout à l'heure, Cécilia Bellora, c'est d'abord l'industrie automobile européenne qui devrait en sortir gagnante.
Oui, on a quelques industries qui peuvent en sortir gagnantes. C'est en particulier côté manufacturier, l'industrie automobile et l'industrie chimique, puisqu'on a des exportations à la fois de produits chimiques et pharmaceutiques qui sont assez importantes vers les pays du Mercosur. Et puis également, mais ça reste à regarder, mais en tout cas, il y a eu une négociation dont la Commission est très fière sur la protection des indications géographiques sur le marché du Mercosur. Voilà, voir si le fait d'arriver à protéger nos produits de qualité aide à l'exportation s'il y a bien un marché pour ces produits-là dans le Mercosur.
Et il y a aussi un autre avantage qui est prévu par l'accord. L'Union européenne pourrait accéder au marché public dans les pays du Mercosur. C'est un avantage économique important, Mathilde Dupré?
Bah disons que l'Union européenne, elle insiste toujours sur ce point-là parce qu'elle a des marchés publics très ouverts et elle a beaucoup de mal à accéder en contrepartie au marché public de ses partenaires. Ça lui coûte d'ailleurs cher dans les négociations parce que c'est un des points sur lesquels elle cherche à obtenir des choses. Mais là, visiblement, il y a un accord qui a été trouvé qui permettrait, et notamment à des grandes entreprises multinationales qui ont leur siège en France, qui sont bien placées sur ces marchés-là, de pouvoir accéder à certains marchés publics, effectivement.
Cécilia Bellorin.
Vous avez raison de rappeler qu'effectivement, on parle souvent beaucoup des échanges de biens, mais les échanges de services sont importants aussi, surtout pour l'Union européenne, puisque tout à l'heure, on avait quelques ordres de grandeur, et donc autant l'UE exporte vers le Mercosur quelque chose comme 45 milliards d'euros de biens, mais elle en exporte aussi à peu près 23 milliards de services. Donc c'est quand même, ce sont des flux commerciaux qui sont importants. Et il y a effectivement aussi un accès, enfin une facilitation des échanges de services et un accès au marché public.
Et alors ce traité de libre-échange avec le Mercosur prévoit un engagement à respecter les accords de Paris sur le climat et notamment à lutter contre la déforestation. Est-ce qu'il s'agit là tout de même d'une avancée réelle par rapport aux traités commerciaux qui ont pu être signés dans le passé, Cécilia Bellorin?
En fait, là-dessus, on a surtout une volonté qui est affichée clairement depuis le mois d'avril de la France de ne pas aller dans des négociations commerciales avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris. Et il se trouve que, en fait, dans ces engagements dans le cadre de l'accord de Paris, le Brésil s'engage, oui, à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, mais le Brésil s'est aussi engagé à lutter, à anéantir complètement la déforestation illégale et à reforester une partie des surfaces déforestées illégalement. Et donc, et aujourd'hui, c'est ça qui sert qui est la base de la réaction du président français qu'on a eu il y a quelques jours.
On aimerait comprendre avec vous, Mathilde Dupré, en quoi l'accord avec le Mercosur est dangereux pour l'environnement. Concrètement, on a beaucoup parlé de déforestation, on peut parler aussi de menaces sur le Cerrado, qui est la savane brésilienne.
Ben, il faut voir que les produits qui sont exportés par les pays du Mercosur, ce sont beaucoup des produits, des matières premières, notamment dans le secteur agricole, et qui ont un impact très fort à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre via la déforestation et à la fois aussi sur la biodiversité. Et de ce point de vue-là, on n'a pas prévu véritablement dans l'accord de faire en sorte qu'on ne puisse favoriser les échanges, par exemple, que de biens qui seraient produits dans des conditions dont on s'assure qu'il n'y a pas de déforestation générée, etc. Et donc, on voit qu'on a un engagement sur l'accord de Paris ou sur la lutte contre la déforestation qui est assez vague, c'est-à-dire que les pays se sont réengagés à ce qu'ils avaient déjà promis dans l'accord de Paris, mais ça est inscrit dans un chapitre développement durable qui n'est pas soumis au mécanisme de règlement des différends entre les États, par exemple, donc qui ne peut pas générer de mécanisme de sanctions commerciales. Et on n'a pas non plus cherché à faire en sorte que les avantages commerciaux qu'on va offrir à ces pays-là soient conditionnés à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs en matière de durabilité, etc. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, vu la politique qui est menée par le Brésil, c'est que non seulement il apparaît quand même un peu contre-productif de lui offrir des nouveaux avantages commerciaux via un accord de commerce, mais que surtout, on devrait déjà essayer de réagir en posant des sanctions commerciales contre les échanges qui existent déjà et contre les produits qui participent à la déforestation sur la base du droit commercial existant.
Il faudrait des mécanismes de sanctions et aussi la possibilité de bloquer les avantages commerciaux en cas de non-respect de ces mesures en faveur de l'environnement, Cécilia Bellorin.
C'était ce qu'avait essayé d'ailleurs de faire un peu dans ce sens-là, c'était ce qui était prévu dans le TPP, qui ne s'appelle plus comme ça, mais enfin qui est l'accord transpacifique entre des pays qui sur le pourtour de l'océan Pacifique que les États-Unis ont décidé de ne pas signer ni ratifier dès l'arrivée du président Trump au pouvoir.
Un accord qui avait été largement tenu par le président Obama.
Exactement, et qui d'ailleurs, grâce à au président Obama, en fait, incluait des mécanismes qui visaient en particulier le Vietnam. Et en gros, si le Vietnam ne respectait pas des obligations de base en termes de normes sociales et du travail, il y avait une clause qui permettait aux autres partenaires d'enlever les bénéfices commerciaux de l'accord. Alors, c'était qu'une première. D'ailleurs, c'était une première dans ce type d'accord. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose qui, voilà, c'était une première.
Et qu'est-ce qui empêche alors l'Union européenne de s'engager dans cette voie?
Absolument. Donc voilà, aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut le faire aussi. Et donc, on en revient à la discussion de tout à l'heure, de dire oui, il y a des avantages à ça, mais ça rallonge les négociations, mais ça peut être vu comme de l'ingérence. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est questionné dans le sens. On se pose vraiment la question de est-ce qu'il faut le mettre, et ensuite, une fois qu'on a dit, même si on dit oui, c'est quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour essayer de faire en sorte que la chose se passe du mieux possible. Par exemple, en mettant en place plutôt des seuils planchers, donc au moins respecter par exemple les normes de l'OIT ou des choses dans ce genre, et ensuite avec des sanctions qui peuvent être automatiques, histoire d'essayer d'enlever le plus possible les tensions politiques qu'il peut y avoir autour de ce genre de proposition.
Mathilde Dupré.
Je pense qu'il y a un gros débat à l'intérieur de l'Union européenne entre les pays membres pour savoir si mélanger des objectifs commerciaux et des objectifs environnementaux ou sociaux est une bonne idée. Et par exemple, la France a commencé à proposer des choses sur l'articulation avec l'accord de Paris cette année. Elle a essuyé le refus de certains pays, par exemple les pays du Nord de l'Europe, qui sont pourtant des pays assez engagés sur les questions environnementales et climatiques.
Mais, et pour quelle raison?
Ils considèrent vraiment que ça doit être deux politiques complètement autonomes, indépendantes, et qu'il ne faut pas chercher à lier trop d'objectifs, parce que sinon, effectivement, ça rendrait la conclusion d'accord très compliquée. Sauf qu'aujourd'hui, cette position, elle apparaît difficilement tenable, vu l'urgence climatique. Il n'y a aucune raison de penser que la politique commerciale pourrait échapper à toute contrainte dans ce domaine.
Donc c'est aussi une question de culture commerciale, de culture politique.
C'est une question de culture politique. Et après, je voulais juste répondre sur le point de l'ingérence. Ça, c'est normal que les partenaires de l'Union européenne essayent de jouer sur cette corde-là et de dire « mais c'est de l'ingérence politique, vous n'avez pas à faire ça », etc. C'est leur partition, c'est de bonne guerre, je dirais. On peut voir les choses de façon un peu différente. C'est-à-dire que si l'Union européenne laisse rentrer sur son marché des biens dont la production a contribué à des violations des droits humains ou des dégradations de l'environnement, elle se rend complice de ce type de pratique, et donc c'est sa responsabilité de fermer son marché à ce type de biens. Et là, c'est pas de l'ingérence économique, c'est simplement une politique commerciale responsable.
Sylvie Matelli, sur les dissensions peut-être au sein de l'Union européenne entre politique commerciale et imposition de ces normes.
Oui, Mathilde a tout à fait raison, il y a ces dissensions. Il faut aussi voir, et on l'a rappelé tout à l'heure, que l'Union européenne, c'est 28, bientôt 27 pays, avec des intérêts commerciaux et des intérêts à faire respecter ces normes-là qui sont radicalement différents. Et donc, ils pèsent différemment dans la balance et le positionnement des États. Donc, ça complique la négociation à la fois entre l'Union européenne et le Mercosur, mais également entre les différents États dans le mandat qu'ils donnent à la Commission européenne.
Venons-en maintenant au CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui a été partiellement approuvé par le Parlement européen en février 2017. Le CETA qui avait également provoqué de très fortes résistances.
Madame la Présidente, Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, vous parlez au nom des salariés sur le CETA. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA. Vous prétendez parler au nom des consommateurs, écoutez-les, ils ne veulent pas du CETA, les consommateurs. Vous prétendez parler au nom des citoyens européens, et qu'est-ce que vous leur direz, Monsieur Juncker, quand la Commission fera enfin son boulot sur les perturbateurs endocriniens et que Bayer et Monsanto feront condamner l'Europe pour les mesures prises? Qu'est-ce que vous direz, Monsieur Tusk, aux citoyens européens quand l'Europe refera son boulot de leadership sur le climat et que ce seront les firmes canadiennes des sables bitumineux et du pétrole et des gaz de schiste qui attaqueront l'Europe? Qu'est-ce que vous direz aux éleveurs européens quand ils seront détruits par l'élevage intensif, bourré aux antibiotiques, maltraitant les animaux du Canada? Alors, avec ce modèle européen que vous portez, de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes.
L'eurodéputé Yannick Jadot au Parlement européen, c'était en octobre 2016. Votre point de vue sur ces critiques soulevées ici, Mathilde Dupré?
Il reprend dans cette intervention un peu à l'appel toutes les critiques, mais c'est vrai que on le disait tout à l'heure, le CETA est un accord de type nouveau. On commerçait déjà beaucoup avec le Canada. Les obstacles tarifaires étaient déjà assez réduits, donc les négociations ont porté essentiellement sur les règles et les normes, à la fois techniques, mais aussi sanitaires, environnementales, sociales, etc. Et c'est ça qui pose problème parce que on arrive sur des sujets qui sont éminemment controversés et donc c'est bien pour ça que ce nouveau type d'accord a réveillé une opposition de segments très très différents dans la société.
Mais en l'occurrence 90% des mesures prévues par le traité sont déjà en vigueur depuis 2 ans. Quel bilan à la fois économique et écologique on peut en faire aujourd'hui? Cécilia Bellora, finalement la filière bovine française n'a pas subi le raz-de-marée redouté?
Non, alors il y a 2 points en particulier sur la filière bovine. Donc, ce qui s'est passé, donc ce que prévoit l'accord avec le Canada concernant le bœuf, c'est de l'ouverture de quotas, donc sur des volumes, sur des quantités définies. Et en fait, les quotas qui sont ouverts sur de la viande de qualité. Et effectivement, ils sont ouverts de façon, je dis effectivement parce qu'il y a Mathilde Dupré qui fait les sous-titres, qui sont ouverts dans le temps d'ici quelques années. En fait, l'idée c'était d'importer de la viande de qualité et en fait de faire une sorte d'appel d'air pour les exportations canadiennes, parce qu'en fait ce qu'on demande ce sont des filières de viande sans hormones qui n'existent quasiment pas au Canada. Et donc
d'où le fait que le Canada n'a exporté que 2% du quota de viande autorisée.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui les quotas les quotas d'exportation ne sont pas du tout remplis par le Canada, donc il y a très peu de viande qui est arrivée depuis le Canada dans cette année et quelques mois. Par contre, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la mise en œuvre.
On a aussi pu entendre que la France profitait beaucoup plus de cet accord que le Canada.
C'est exactement là que j'allais arriver, puisque le Canada, de son côté, a également ouvert des contingents tarifaires sur le fromage pour l'Union européenne, et que ces contingents tarifaires sont, depuis le début de l'application du CETA, ils sont à peu près remplis. Ça, c'est sur la partie contingent tarifaire et c'est sur la partie produits agricoles. Il y a eu également, d'après les chiffres de la Commission, une hausse des exportations européennes vers le Canada, qui apparemment est plus importante que celle du Canada vers l'UE. Après, on a quand même assez peu de recul parce que ce sont des données mensuelles, elles arrivent elles aussi au compte-gouttes. Tout n'est pas encore en œuvre, donc ça reste à vérifier.
Et puis aussi, le CETA a été ratifié fin juillet par l'Assemblée nationale et on attend la validation des autres parlements européens pour que l'accord soit appliqué de façon complète. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains mois sur ce point, Mathilde Dupré?
Il y a un certain nombre de pays qui doivent effectivement encore ratifier l'accord. Je pense à l'Allemagne notamment, et qui attend toujours la réponse de la Cour constitutionnelle allemande au recours qui a été posé par un certain nombre d'associations. Les Pays-Bas, il reste aussi la Wallonie qui ne s'est pas encore prononcée. Enfin, un certain
nombre d'autres pays. Ratification sur les 10% de mesures qui n'ont pas encore été validées.
Le vote national, c'est toujours un vote sur l'ensemble de l'accord. Après, effectivement, il a pour conséquence concrète de déclencher l'application des 10% restants si l'ensemble des pays membres dit oui à la ratification du CETA. Si je peux revenir très rapidement sur la mise en œuvre du CETA, nous, ce qui nous a intéressé dans le suivi de l'impact de l'accord, c'est de voir quels ont été les effets notamment sur les normes, puisque c'est sur ce point-là qu'on a beaucoup alerté. Et de fait, il y avait déjà eu pendant les négociations un certain nombre de concessions qui avaient été faites par l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la négociation sur la directive qualité des carburants qui visait initialement à pouvoir discriminer les pétroles non conventionnels, donc issus des sables bitumineux ou le gaz de schiste, et en leur accordant des caractéristiques environnementales moins bonnes que d'autres types de ressources fossiles. Cette directive-là avait été complètement affaiblie parce que le Canada notamment et les États-Unis États-Unis n'en voulaient pas. On avait aussi eu d'autres engagements de la Commission européenne, comme d'accepter de nouveaux types d'OGM ou d'accepter de nouvelles solutions de lavage de la viande dans des cas très précis. Et on voit que depuis le début de l'application provisoire et les nouveaux comités qui ont été créés, il y a eu déjà des démarches qui ont été faites par le Canada pour obtenir des concessions à la fois contre une éventuelle interdiction du glyphosate dans les États membres ou sur l'abaissement de seuil sur les pesticides. Donc là, c'est une menace qui est en train de se concrétiser.
Cécilia Bellora, vous n'aviez pas l'air d'accord sur un point.
Non, si. En fait, effectivement, il y a de l'économie politique qui rentre dans l'enjeu. Et alors, en fait, l'accord en tant que tel ouvre ces négociations, ou du moins ces discussions au moment en amont de la mise en place des mesures sanitaires, techniques et autres. Donc effectivement, après, non, ma réaction était sur la question de la directive sur la qualité des carburants, où effectivement qui a été ça a été baissé, et ça c'est terrible parce qu'en fait ça s'est passé au niveau du Parlement européen. Donc il y a vraiment une question de, et c'était avant même que le CETA soit en marche, ce qui fait que c'est quelque part des mécanismes qui sont en œuvre quasiment au-delà du traité en tant que tel, et donc ça c'est terrible. Alors même que je pense que une façon de se protéger des conséquences, y compris possiblement négatives, du commerce sur l'environnement, il n'y a pas que ça, mais il y en a, c'est justement en ayant des politiques environnementales fortes. Or, ce qu'on a fait là, c'est que notre propre politique environnementale, puisque ce n'était pas une politique environnementale qu'on voulait imposer au Canada, eh ben, on l'a affaiblie. Et donc ça c'est terrible.
Ce qu'on peut saluer peut-être, Mathilde Dupré, c'est la plus grande transparence tout de même dans la négociation de ces traités commerciaux européens. C'était l'une des grandes critiques adressées à la Commission européenne.
Dans ce domaine, il y a eu des avancées, c'est indéniable, même si elles sont encore pas étendues à l'ensemble des négociations. Donc par exemple, le mandat de négociation entre l'Union européenne et le Mercosur, sur la base duquel l'accord a été négocié, et donc il date de 20 ans, n'a toujours pas été rendu public, alors même que les négociations sont terminées ou quasi terminées. Donc là, on voit qu'il reste
encore beaucoup de progrès,
encore des marges de progression, malheureusement.
Sylvie Matelli, je voudrais qu'on arrive à la conclusion de cette émission. Moi, ce qui m'intéressait dans cette conclusion, c'était véritablement la question du libre-échange face au protectionnisme. On voit ici qu'à travers ces accords commerciaux, il y a véritablement un clivage important, une ligne de fracture.
Il y a une ligne de fracture par rapport à ce que devrait être une transition énergétique ou écologique. C'est-à-dire, on est dans une des négociations de libre-échange qui visent, qui d'abord ne sont pas multilatérales et qui seraient probablement plus équitables si elles étaient menées à l'OMC. Ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, qui visent à générer de la croissance et à amplifier les échanges commerciaux entre les pays. Or, par définition, ce sont des éléments qui ne favorisent pas la lutte contre le changement climatique et qui ont des externalités sur l'environnement, des externalités sociales également, qui sont assez importantes. Donc, c'est un choix de modèle. Je suis pas sûre que le mot protectionnisme soit adapté. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme tel qu'il est défini dans les livres d'analyse économique. Il s'agit simplement de protéger les consommateurs, de protéger l'environnement, de mettre en place un cadre qui va permettre de relever les différents défis qui se posent aujourd'hui à nos sociétés, à nos économies.
Et ces négociations seraient plus égalitaires dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, selon vous, Cécilia Bellora?
La question, alors oui, c'est-à-dire qu'arriver à mettre l'ensemble des pays autour de la table permet de donner une voix à chacun. Après, on a vu que depuis les années 2000, on n'est pas capable de négocier avec autant de monde autour de la table parce que les intérêts sont divergents. Et donc, ça renvoie bien à un problème d'intérêts divergents et qu'il faut essayer de voir. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que négocier avec l'ensemble des partenaires autour de la table de l'OMC est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des pistes de réflexion qui sont de dire... On fait des groupes restreints, on essaie d'avoir des groupes moteurs et puis on essaie d'élargir. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment une des grandes questions de la réforme de l'OMC, c'est comment la mener.
Mathilde Dupré.
Je pense que effectivement la question libre-échange protectionnisme, elle est mal posée et elle crispe tout le monde, surtout dans un moment où les États-Unis mènent la politique qui est la leur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a peut-être été trop loin dans la libéralisation des échanges, parce que ça a eu pour conséquence de limiter les marges de manœuvre des États pour réguler dans un certain nombre de domaines, et que des marges de manœuvre, on va en avoir besoin, notamment pour mener la transition écologique. Et donc, ce qui est important, c'est peut-être de façon multilatérale revenir sur certaines concessions qui avaient été faites et restreindre peut-être le champ du commerce, mais de façon concertée, et que ce soit pas la guerre de tous contre tous, mais que chacun regagne un peu de capacité d'action pour la transition écologique.
Et c'est l'heure de retrouver Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques, qui viendra nous donner des nouvelles de l'Écho un vendredi sur deux. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et donc vous allez nous parler de la fonte exceptionnelle des glaces du Groenland.
Oui, du moment Pearl Harbor. Donc on a assisté cet été à une fonte exceptionnelle des glaces du Groenland, à des incendies géants en Sibérie, en Amazonie et en Afrique équatoriale, à une mousson mortelle en Inde, à une hécatombe dans la forêt française du fait d'une sécheresse hors du commun. Donc l'été qui se termine nous a montré, s'il en était encore besoin, que le changement climatique et ses funestes conséquences n'étaient plus seulement une hypothétique menace pour les générations futures, mais bel et bien déjà une réalité massive d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chance que nous sachions réagir assez vite et assez fort face à ce défi planétaire? Il est difficile a priori d'être très optimiste avec des Trump, des Bolsonaro, des Poutine, des Modi, des Orban, des Johnson, dont c'est visiblement le cadet des soucis.
Et alors la question que vous posez à Guillaume, c'est faut-il se résigner désormais à l'effondrement de notre civilisation carrément?
On en parle beaucoup, mais je crois que pas tout à fait encore. Pour combattre le désespoir et la démobilisation qu'il risque d'entraîner, l'éco-économiste américain Lester Brown utilise un rappel historique intéressant et utile. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont longtemps hésité à s'engager dans la lutte contre le nazisme. Outre-Atlantique, l'opinion était très divisée à ce sujet. Et puis est arrivée l'attaque japonaise sur Pearl Harbor et en décembre 1941, et l'Amérique a basculé d'un coup. Pendant 4 ans, la mobilisation a été totale. Les Américains n'ont pas produit en particulier une seule voiture individuelle, toutes les usines étant reconverties pour produire des camions, des chars, des bateaux, etc. pour l'effort de guerre. Or, la voiture jouait déjà un rôle central dans la société américaine. Et tout cela s'est fait avec un pays qui restait une démocratie, avec son congrès qui a continué à contrôler le président et sa presse qui a continué à critiquer les dirigeants.
Et alors, en quoi ce rappel historique est-il utile dans le contexte d'aujourd'hui, Guillaume ?
Face au changement climatique, aujourd'hui, nous pensons volontiers que nous n'y arriverons jamais, que les résistances sont beaucoup trop fortes pour réussir à enclencher à temps les changements indispensables. Et Lester Brown utilise cette analogie pour nous rappeler que nos sociétés sont capables, en réalité, de mobilisation extrêmement rapide et puissante une fois qu'elles ont décidé de prendre un problème à bras-le-corps. Espérons et travaillons à ce que les événements de cet été soient ce déclic qui nous fasse enfin entrer dans une véritable logique de guerre contre les causes et les conséquences de la crise écologique.
Et alors, quand est-ce qu'on commence ?
Tout de suite, j'espère. Et l'Europe a un rôle particulier à jouer là-dedans parce qu'elle est à la fois la zone qui a déclenché la dynamique mortifère de la révolution industrielle qui nous conduit dans le mur, et elle est celle aussi où cette prise de conscience est aujourd'hui la plus avancée. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons à l'avant-garde de cette mobilisation mondiale en montrant que celle-ci peut être compatible avec la démocratie et la justice sociale. Mais cela suppose évidemment que nos dirigeants cessent enfin de se polariser sur des sujets parfaitement secondaires, en tout cas au regard des enjeux liés au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, comme la dette, la baisse des dépenses publiques ou encore celle du coût du travail. Donnons enfin la priorité absolue qu'elle mérite à la réduction de notre énorme dette écologique.
Merci beaucoup Guillaume Duval, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Un mot sur la une d'Alternatives économiques ce mois-ci ?
Oui, donc nous titrons sur les 7 péchés du capitalisme, donc sur les problèmes qui se posent aujourd'hui, à la fois les problèmes environnementaux dont on vient de parler, les problèmes de santé aussi que engendre l'activité du capitalisme quand elle n'est pas encadrée, mais c'est aussi un problème à la fois vis-à-vis, le capitalisme, quand on le laisse faire, conduit plutôt au monopole, à la rente, et ça menace aussi à terme la démocratie, comme on peut le voir aujourd'hui avec les GAFA, par exemple.
Eh bien, on lira ça attentivement. Merci beaucoup, Guillaume, et bon week-end. De Billie Eilish. Merci beaucoup Sylvie Matelli, Cécilia Bellora et Mathilde Dupré de nous avoir accompagnés aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. La semaine prochaine, nous nous glissons dans le monde de l'entreprise pour interroger le rôle et la raison d'être des firmes. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.